Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes toujours prêts à me suivre, non pas au bout du monde, ça ferait peut-être un peu loin, mais quand même assez loin puisque nous allons en Russie retrouver la bonne compagnie des artistes femmes créatrices du début du XXe siècle. Alors période tourmentée, s'il en est, car la révolution sévit, c'est le renversement du régime tsariste, la prise du pouvoir par les révolutionnaires, par les bolcheviks avec Lénine puis Staline. Et donc, c'est la mise en place de la dictature, la naissance du Parti communiste de l'Union soviétique, le PCUS, qui sera le seul parti autorisé après la constitution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, c'est-à-dire l'URSS, créée en 1922. Alors voilà pour vous remémorer le contexte perturbant et perturbateur déjà présenté dans les émissions précédentes et dans lequel vont évoluer tant bien que mal jusqu'à la tragédie parfois les artistes intellectuels, créateurs et notamment les femmes artistes, les créatrices. Alors après peintre, illustratrice, sculptrice, céramiste, designer, décoratrice de théâtre, créatrice de mode, de costumes, musicienne, écrivaine, poétesse, voici venir à nous encore une poétesse qui, après avoir subi une destinée tragique, est maintenant reconnue et réputée comme l'une des plus grandes poétesses de la Russie de son époque. Il s'agit de Marina Tsvetaeva, qui elle est née en 1892. Alors il semblerait qu'elle ait eu déjà un début de vie un petit peu compliqué. Bon, nous pouvons comprendre en relatant les destinées de ces créatrices combien leurs productions artistiques peuvent être plus ou moins marquées par leur vécu ou influencées par leur état d'âme. Alors ses débuts seraient plutôt prometteurs puisqu'elle est née dans une famille éduquée et aisée. Son père, Ivan Tsvetaïev, était professeur d'histoire. Je crois même qu'il fut le fondateur du musée des Beaux-Arts de Moscou. Dans la sphère familiale, ce fut aussi un veuf éploré avec deux enfants et qui épousa en seconde noces la maman de Marina qui se nommait Maria Main, une pianiste et à qui il fera encore deux enfants. Mais la fratrie issue de ces deux ménages s'entendront difficilement, ce qui ajoutera la disharmonie familiale générale et notamment à celle du couple. Car en effet, le père aurait exprimé continuellement des regrets sur sa première épouse. Bon, il est certain que ce n'est pas très agréable pour la seconde, en l'occurrence la mère de Marina, qui exprimera elle aussi assez douloureusement ses frustrations, d'abord de femme, mais aussi de pianiste inaccompli, pour finir comme mère désabusée, puisque comme elle est insatisfaite, elle se tourne alors vers ses enfants. Bon, c'est plutôt une mauvaise idée, car elle reportera sur Marina ses ambitions musicales, alors que cette dernière était bien plus intéressée par la musique des mots que par celle provenant de notes. Alors c'est une triste fin pour cette femme aussi, cette artiste, cette mère, qui contractera par la suite la tuberculose et en mourra, mais qui, par la même occasion, d'une certaine manière, libérera sa fille du joug de son ambition et celle-ci, enfin, pourra se tourner vers sa véritable passion, la poésie. Alors cependant, la maladie de la mère lui aura fait voir du pays, puisque pour trouver un climat plus clément, ils vivront d'abord sous le ciel d'Italie. Ensuite, Marina Tsvetaeva poursuivra ses études dans un pensionnat en Suisse, 2 ans avant le décès de sa maman, qui surviendra en 1904. Bon, Marina n'a que 12 ans à cette période. Par la suite, elle continuera ses études à Paris, dans la célèbre Sorbonne, section histoire et littérature. Et ce périple dans ces pays étrangers lui permettra quand même d'apprendre au passage 4 langues, ce qui n'est pas rien, et donc l'italien, l'allemand, et le français en plus du russe. Alors en parallèle, elle continuera de versifier puisqu'elle publiera adolescente à compte d'auteur ses premiers vers. Son intérêt se portera surtout sur le symbolisme russe, un courant teinté d'idéalisme quelque peu déconnecté de la réalité prosaïque et qui était jugé à tendance élitiste, mais qui va être diffusé à travers la Russie par bien des poètes de ce pays. Alors Marina lit beaucoup, il semblerait. Elle lit des auteurs de pays étrangers, variés, le français Rostand, les allemands Goethe, Oderlin, le russe Pushkin, entre autres. Bon, n'oublions pas qu'elle connaît quatre langues et ne doit pas avoir besoin de traduction. On compte parmi ses écrivains et poètes contemporains préférés l'Autrichien Rainer Maria Rilke et le Russe Boris Pasternak, avec qui elle entretiendra des relations privilégiées en échangeant par la suite une riche correspondance. Alors elle se mariera à l'âge de 20 ans, 1912, avec un officier, aussi journaliste, nommé Sergueï Efron. Bon, ils ont sensiblement le même âge, c'est un mariage d'amour. Bon, ce qui n'empêchera pas Marina d'éprouver des passions amoureuses pour d'autres hommes, mais aussi des femmes. Alors ce sont des poètes, hein, comme le russe Ossip Mandelstam, dont j'ai évoqué le nom puisqu'il était l'ami de notre autre célèbre poétesse, présentée l'émission précédente, Anna Akhmatova, que Marina rencontrera aussi, mais assez tardivement, en 1940, à l'âge de 48 ans, et à qui elle dédiera de sa poésie. Alors elle tombera amoureuse également d'une poétesse et traductrice russe nommée Sofia Parnok, née en 1885, qui l'inspirera pour son recueil intitulé L'Ami. Alors celle-ci est surnommée la Sappho russe. Elle aurait écrit les premiers poèmes lesbiens de la littérature russe. C'est aussi quelqu'un investi en littérature et poésie, car elle fondera un cercle lyrique à Moscou qui réunira des poètes russes, mais elle subira, comme tant d'autres, la répression stalinienne, puisqu'elle sera interdite de publication et finira sa vie précocement terrassée, elle, par une crise cardiaque à l'âge de 48 ans. Bon, à noter que Sofia Parnok est la sœur d'un artiste russe célèbre nommé Valentin Parnok, qui est un avant-gardiste, poète, musicien, chorégraphe et fondateur dans les années 20 de ce qui a été appelé le jazz russe. Alors pour en revenir à Marina Tsvetaeva, elle s'éprendra également d'un acteur, Yuri Zavadsky, d'une actrice aussi, d'un poète nommé Nicolas Gronsky, sans compter sa passion pour Constantin Rodzevitch. Alors ce sont des amours au sens large, hein, aussi des amours platoniques, amitié suivie de lettres et de correspondances, comme avec les écrivains poètes Rainer Maria Rilke ou Boris Pasternak, mais le tout reste teinté des émotions passionnées de Marina Tsvetaeva. Car ce qu'il faut retenir, c'est que en tant que grande amoureuse qui s'enflammait facilement, ses passions lui servaient de matériau dans son expression poétique. Et elle disait d'ailleurs, et je vous le lis, « Pour moi, les mots sont trop petits et la démesure de mes mots n'est que le pâle reflet de la démesure de mes sentiments. » Alors j'ai lu plusieurs écrits consacrés à Marina Tsvetaeva, hein, lu les traductions de quelques-uns de ses poèmes, écouté des témoignages, réflexions retransmises en partie sur YouTube, hein, que vous pouvez également écouter sur Internet. Tout cela pour essayer d'appréhender le plus justement possible l'âme de cette femme, une âme à la fois exaltée, mais aussi, elle était aussi dotée d'un esprit élevé, je dirais noble, dans le sens où elle ne pouvait s'abaisser aux compromissions médiocres. Et de plus, il est dit qu'elle marquait une tendance notable à se placer du côté des persécutés. Et quand elle exprimait ses passions, que ce soit pour la littérature ou pour les êtres qui la touchaient, eh bien c'était avec force, en faisant abstraction de l'appartenance sociale ou politique de ces êtres, pourvu qu'ils déclenchent chez elle des émotions et des sentiments positifs. ce qui d'ailleurs a été mal perçu et a incité certaines de ces relations. Ben, des esprits qui s'opposent, choisissent des camps et se politisent, à la cataloguer et à la classer abusivement, et donc aussi à l'exclure de leur cercle littéraire. Alors, cette passion qu'elle exprimait était éminemment romantique, hein, par sa force et son ampleur, teintée néanmoins de douleur, car entachée en plus par les drames qu'elle dut supporter dans sa brève existence. Alors, que dire de sa poésie ? Bon, j'en ai lu quelques-uns traduits en français pour constater ce qui a été dit par des spécialistes. C'est qu'elle mettait en scène les objets comme s'il s'agissait d'êtres doués d'âme avec qui elle pouvait entretenir une relation personnelle et particulière, mais que ce soit avec une table de bureau ou autre objet usuel. Alors, la mort est présente également dans son œuvre au travers des objets, justement. Par exemple, le métronome de sa mère, sa régularité lui fait penser à la mort. Elle l'assimile à un cercueil. Bon, bah, annonce-t-elle sa propre mort ? Bah, il paraîtrait que oui. Bon, pour ma part, je n'ai pas suffisamment lu ses œuvres pour concevoir une quelconque idée sur ce sujet. Enfin, malgré tout, je vais vous faire découvrir sa poésie, qui, bien que traduite, apporte l'émotion qui sied à son œuvre, d'autant plus que ses poèmes, au nombre de 3, sont sensiblement et joliment déclamés par une dame nommée Caroline Canella, que j'ai découverte sur YouTube, et place donc maintenant à la poésie de Marina Tsvetaeva.
Se faufiler. Peut-être la meilleure victoire sur le temps et la langueur est-elle de passer sans trace, de passer sans faire d'ombre au mur. Peut-être de prendre par le refus, de sortir des miroirs, de passer en l'air montove sur le Caucase. Se faufiler sans troubler les rochers. Peut-être la plus joyeuse des fêtes est-elle de toucher l'orgue sans faire d'écho du doigt de Jean-Sébastien Bach, de s'effondrer sans bruit et sans poussière dans l'urne, peut-être de mentir pour arriver, se faufiler, sortir des longitudes, devenir temps, passer en océan sans troubler l'eau. Tel effet de pierre, tel effet d'argile. Mais moi, je m'argente et scintille. Je m'occupe de trahir, je m'appelle Marine. Je suis la fragile écume marine. Tel effet de pierre, tel effet de chair. Pour eux, cercueil et pierre tumulaire. Dans les fonds marins baptisés, je suis dans mon envol constamment brisé. Au travers des cœurs, au travers des raies, mon bon plaisir perce son chemin. Moi, vois-tu ces boucles déchaînées ? Je ne suis point faite de dépôts salins. Me brisant sur vos genoux de granit, à chaque vague, je ressuscite. Que vive l'écume, joyeuse écume, la haute écume marine. Il en tomba combien dans cet abîme, béant dans le lointain. Et je disparaîtrai un jour sans rime, du globe, c'est certain. Se figera tout ce qui fut, qui chante, et lutte, et brille, et veut. Et le vert de mes yeux, et ma voix tendre, et l'or de mes cheveux. Et la vie sera là, son pain, son sel, et l'oubli des journées. Et tout sera comme si sous le ciel je n'avais pas été. Moi qui changeais comme un enfant sa mine, méchante qu'un moment, qui qui aimait l'heure où les bûches s'animent quand la cendre les prend. Et le violoncelle, et les cavalcades, et le clocher sonnant. Moi, tellement vivante et véritable, sur le sol caressant. À tous, qu'importe, en rien je ne mesure, vous, mien et étranger, je vous demande une confiance sûre, je vous prie de m'aimer. Et jour et nuit, voix orale ou écrite, pour mes oui, non, cinglant, du fait que, si souvent, je suis trop triste, que je n'ai que 20 ans, du fait de mon pardon inévitable, des offenses passées, pour toute ma tendresse incontenable, et mon trop fier aspect, et la vitesse folle des temps forts, pour mon jeu, pour mon vrai. Écoutez-moi, il faut m'aimer encore, du fait que je mourrai.
Après cette découverte poétique, revenons un peu à l'historique, à l'histoire de Marina Tsvetaeva, qui aimait son mari malgré l'explosion de ses élans passionnels, et aura avec lui tout d'abord 2 filles, l'une née tout de suite la même année que son mariage, en 1912, nommée Arianna, et qui deviendra peintre et écrivaine également, et l'autre nommée Irina, quelques années plus tard, en 1917, juste au moment de la Révolution. Alors à ce moment, elle est à Moscou, nous dirons en première loge pour supporter la terreur. Son mari, Sergueï Efron, s'engagera dans l'armée blanche, une armée qui s'est formée après la révolution d'octobre de 1917 pour lutter contre le nouveau pouvoir soviétique. Et cette armée aura combattu jusqu'en 1922 l'armée dite « rouge ». Après la Révolution, la famine sévit dans Moscou et c'est une telle misère et une telle souffrance que Marina se voit contrainte de mettre ses filles à l'orphelinat pour leur éviter de mourir de faim. Enfin, du moins, c'est ce qu'elle pense. Et elle reprendra quand même l'aînée sur les cris déchirants de celle-ci, qui a 8 ans à l'époque, mais laissera la petite par précaution, et qui finira quand même par mourir de faim à l'âge de 4 ans, ce qui perturbera Marina, la culpabilisera d'autant plus qu'elle n'avait jamais vraiment montré de réelle attention maternelle pour la plus jeune. Alors en 1922, toute la famille Efron s'installe près de Prague en Tchécoslovaquie. Marina conçoit un autre enfant, ce sera un fils nommé Georges. En 1925, ils partent pour Paris, ce qui fera en tout 17 ans d'exil. Mais Marina se sentira mal intégrée dans la communauté des écrivains russes émigrés, qui la rejeteront plus ou moins pour différentes raisons, dues, paraît-il, à ce qu'elle présentait de ses goûts, préférences, adhésions, et qui ne correspondait pas globalement à l'idéologie du groupe. Bon, ce qui ne l'empêche pas, au contraire, d'écrire et d'exprimer son mal-être et ses états d'âme et ses passions. Alors, entre-temps, son mari, Sergueï Efron, mal intégré lui aussi, souffre de l'exil, commence à réviser ses conceptions vis-à-vis de la Russie. Il finit par être soupçonné d'espionnage, de tremper dans des affaires plus ou moins louches. Enfin, quoi qu'il en soit, il veut rentrer et sa fille, Arianna, le suit. Et tous deux sont arrêtés. Alors le système les accuse. Lui sera fusillé en 1941, tandis que sa fille Arianna sera internée pendant 8 ans dans un camp et exilée pendant 5 ans dans des conditions très difficiles. Alors en 1939, Marina, de son côté, rentrera à son tour en Russie avec son fils. Et là, ce sera la descente aux enfers. Les êtres chers ont disparu ou sont éloignés à cause de tous ces événements tragiques. En même temps, toutes les portes se ferment devant elle, sourd à ses appels, à ses cris de détresse, même celle de l'Union des écrivains soviétiques. L'invasion allemande la chasse encore avec son fils à 900 km de Moscou, dans une petite ville nommée Les Labouga, où toutes ses tentatives pour y trouver du travail échouent. Bon, il semblerait également que les relations avec ce fils adolescent plutôt difficile et critique à son égard se dégradent. Alors c'est bientôt la misère, hein, ponctuée d'humiliations incessantes, et on peut imaginer les privations telles que la faim, la solitude. On peut également supposer que face à cette situation, elle, si passionnée et empreinte de dignité, ressent un sentiment d'abandon et d'impuissance. Je rajouterai devant ce triste tableau que le froid des plaines de Russie pénètre avec suffisamment de rigueur en elle pour lui glacer le cœur et éteindre à jamais cette magnifique flamme de vie qui faisait sa singularité jusqu'à la phase ultime, ce jour tragique de 1941, où elle est au bout du rouleau, à l'aube de la cinquantaine. Période généralement critique pour une femme, hein, car avec la jeunesse qui s'enfuit, elle clôt un cycle de fécondation et de renouvellement. Et c'est dans cet espace limité, dépouillé et glacial, autant intérieur qu'extérieur, qu'elle mettra fin à ses jours. Alors elle n'a plus les moyens de vivre, elle trouvera encore celui de mourir, le moyen qui lui reste une corde, puisque c'est par pendaison qu'elle en finira avec elle. Et elle sera enterrée au cimetière de Les Labouga, dans une tombe anonyme qui jamais ne sera retrouvée. Alors elle aurait pu être oubliée sans ses proches, hein, sa fille Arianna, ses amis, qui ne cesseront jamais de garder vivante sa mémoire et de faire l'éloge de son talent de poète. Aussi, c'est après sa mort, après que les Russes aient retrouvé, on va dire, un certain équilibre, et à partir de 1955, que la mémoire de Mariana Tsvetaeva sera réhabilitée. Alors, qu'en est-il actuellement de la mémoire de cette femme poète ? Bon, je pense qu'il n'est pas excessif de dire que depuis quelques décennies, la poésie de Mariana Tsvetaeva a fait du chemin, que sa personnalité passionnée et singulière, son talent ont persuadé bien des esprits érudits pour que les langues se délient à son sujet. De multiples biographies ont été publiées. Bon, je vous citais sa fille Arianna Efron qui aurait écrit sur sa mère un ouvrage publié aux éditions des Sirtes en 2007 à Paris sous le titre « Marina Tsvetaeva, ma mère ». Le dernier livre connu date de 2019 et est écrit par la femme de lettres Vénus Kurigata et s'intitule « Marina Tsvetaeva, mourir à Les Labouga », publié au Mercure de France et qui est présenté par l'auteur d'ailleurs sur YouTube, hein, lors d'un entretien sur TV5 Monde. Des musiciens comme Dimitri Shostakovich ont mis ses poèmes en musique, et d'autres encore. Le théâtre français a adapté à Paris ses carnets, le cinéma s'est également intéressé au destin de cette femme sous forme de documentaire ou d'un film que les Russes ont réalisé. Bon, maintenant, elle possède plaques commémoratives en Suisse, en France, dans des lieux qu'elle a fréquentés. Un sculpteur russe, Zourab Tseretelli, l'a immortalisée dans une commune française vendéenne à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et un cratère vénusien et un astéroïde portent également son nom. Alors, bien de ses créations sont publiées en langue française, hein, chez différents éditeurs, comme aux éditions Clément Siver, Gallimard ou Albin Michel, édition du Seuil, entre autres. Sa production poétique est importante, ses courriers également, adressés à ses amis, et notamment les lettres adressées à l'écrivain Boris Pasternak. Toute cette littérature a fait l'objet de traductions auprès d'éditeurs. Et je ne vous citerai donc pas toute sa production, hein, mais vous invite à poursuivre vos recherches en librairie ou sur Internet si cette créatrice vous interpelle et vous séduit. Et ce seront mes mots de la fin concernant Marina Tsvetaeva. Mais encore quelques mots sur Arianna Efron, hein, la fille de Marina qui a supporté et partagé elle aussi avec sa mère et sa famille dans ce contexte perturbant toutes les douleurs avec privation qui s'y rattachent, plus la perte de liberté lorsqu'elle était incarcérée et torturée, hein, à ce qu'il paraît. Alors elle aussi est une créatrice, elle en a l'âme et le talent, d'après ce que j'ai pu comprendre. Elle profitera de sa fuite de Russie pour entreprendre des études artistiques à l'école du Louvre de Paris. Bon, malheureusement pour elle, lorsqu'elle reviendra en Russie, elle sera emprisonnée en 1939 à l'âge de 27 ans, et ce, pendant plusieurs années, soupçonnée, accusée d'espionnage, comme je vous l'ai déjà dit. Mais elle aussi prendra la plume, et le crayon et le pinceau pour témoigner de l'époque, exprimer ce qui lui pèse sur le cœur et rendre hommage à cette mère si passionnée de vie et de poésie. Alors je vous invite, si vous voulez en savoir davantage, à écouter sur France Culture son histoire, proposée le 14 octobre 2017 dans Une vie, une œuvre, des labyrinthes de l'histoire, et qui dure à peu près une heure, et vous entendrez l'histoire de la famille, celle de Marina Svetaeva, quelques extraits des écrits de Arianna où sont évoquées notamment ses relations avec sa mère, ceux de Marina Svetaeva et autres personnalités encore qui interviennent, comme des biographes, des historiens, des relations amicales entre autres, le tout pour participer à donner un éclairage nouveau, préciser des informations à la fois sur les personnages dans le contexte général de l'époque. Alors nous arrivons au bout de ce plutôt triste récit d'existence qui, comme vous l'avez compris, n'est pas unique ce XXe siècle dans certaines parties du globe, puisque les guerres, les prises de pouvoir successives, les dictatures perdurent, hélas. Ce XXe siècle a été lui aussi particulièrement violent et cruel, hein, quoi qu'on en dise. Il suffit de voir, ne serait-ce qu'en France, comment les guerres 14-18 et 39-40 ont laissé leur marque. Bon, il en est de même dans d'autres coins du globe, à ces mêmes époques ou à d'autres, et la Russie porte elle aussi les traces de ses souffrances. Et malgré tout, la voix de ces âmes, les plus sensibles et les plus pures, perce l'obscurité des temps pour parvenir jusqu'à nous et nous redonner foi en la vie. Alors l'émission prochaine présentera encore d'autres écrivaines russes et donc encore plongées dans cette même tourmente, et nous découvrirons comment, avec leur personnalité, leur expression créative, elles vont pouvoir et savoir évoluer. Et en attendant, bonne digestion, c'est ce que je peux vous souhaiter de mieux après l'écoute d'un programme qui est toujours, d'après les retours que j'ai sur ces émissions, de la Voix des Arts dans son information, mais aussi, vous pouvez le constater, peut-être un peu lourde et dense, en destin tragique. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver sur la Voix des Arts. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.